Sur les salaires, hein, ça a commencé comme ça. Parce qu'on disait toujours, à chaque fois qu'on allait en négociation salariale, on disait toujours, on perd du pouvoir d'achat, enfin, toujours on avait le sentiment, la certitude, mais on ne le démontrait pas avec des chiffres. Donc là, on a fait une analyse au niveau de nos salaires. On a pris notre grille des salaires 20 ans en arrière. On avait en 89 un coefficient qui était élevé 47% plus du SMIC de l'époque. Et en 2009, il était à zéro. C'était le SMIC. Voilà. Donc en fait, ils nous ont pris 47% en 20 ans. On a regardé à combien de salariés on travaillait à l'époque, donc avec les deux usines, quel volume de production on faisait 20 ans en arrière et combien on en faisait aujourd'hui. Eux, ils font le calcul qu'ils peuvent produire le même volume de production avec trois usines. Donc ils suppriment une usine, celle qu'ils suppriment, c'est la nôtre.
On a gagné une première procédure le 4 février où le juge a condamné Unilever pour irrégularité manifeste au code du travail et a exigé et ordonné de reprendre la procédure à zéro et le PSE. Ils ont remis en route une nouvelle procédure à partir du 10 mars qu'on a réattaqué aujourd'hui où on est passé le 15 juin au tribunal et on attend donc la réponse du juge le 29 juin. Donc on a encore un
dossier. Déjà au moins on en a connu quelques-uns qui n'avaient pas ce genre de scrupules, hein. Comment tu les appelles, les molex. Alors, il n'y en avait rien à fiche. Vous pouvez décider ce qu'on voulait, les tribunaux français de ce qu'ils voulaient, eux. Hein? Ben, c'est normal, à la fin ils se sentent tout puissants, personne ne leur dit rien, le gouvernement n'a rien dit dans l'affaire Molex.
Ah d'accord.
C'est le boycott là.
Tant mieux, ça
nous
a
rien.
Merci.
C'est notre éléphant.
Et qu'est-ce que tu as marqué dessus?
C'est un éléphant. Donc nous, ce qu'on veut prendre à Unilever, on va continuer à faire Unilever. La marque éléphant, la marque éléphant, elle a plus de 118. Donc voilà, donc on va faire. Allez, on y va.
On va pas faire de la pub, hein.
Non.
Si, on
boycotte Lipton.
Avec l'éléphant, on fera la pub, mais pas avec Lipton.
Allez, on continue.
Allez, on démarre.
Philippe.
Bon, déjà, merci à tous ceux qui sont présents d'apporter l'éclairage à la fois par votre présence, ceux qui nous soutiennent et les médias, l'éclairage médiatique sur notre lutte. Donc c'est le. On a l'habitude de temps en temps de voir quelques journalistes, mais là autant que ça d'un seul coup, ça fait beaucoup, c'est bien. Souvent, et c'est surtout ce qu'on reproche, quand on a fait un conflit de 9 semaines l'année dernière sur nos salaires, il y a quelques médias qu'on n'a pas vus. Peut-être que si on avait mis une bouteille de gaz ou étranglé notre directeur, on les aurait vus. Mais bon, au bout de 9 semaines, il y en a quelques-uns, on les a pas vus. Donc, c'est bien que tout soit là, au moins une grande partie. Donc on va faire une prise de parole, c'est Gérard qui va la faire pour Fali par rapport à la visite d'aujourd'hui. Ensuite, il y aura une intervention, assez courte, parce que je pense que le timing il est court. Donc pour la phase par Bernard Calabuig, pour le parti de gauche, Luc Léandri. Pour la gauche unitaire, Jacques Clérichon. Pour le Parti communiste français, Pierre Dharréville. Et donc Jean-Luc Mélenchon, candidat du Front de gauche, puisque c'est sa première visite aujourd'hui en tant que candidat, qui terminera les prises de parole. Et ensuite, je pense qu'il y aura un échange avec ceux qui auront envie de poser des questions et des réponses qu'on apportera aux questions qui seront posées. Donc je passe la parole à Gégé pour faire les mots.
Chers amis, chers camarades,
Depuis le 28 septembre 2010, Julie Lemaire tente de fermer notre usine. Depuis cette date, les salariés avec leur organisation syndicale CGT et CFE-CGC sont rentrés en résistance contre la multinationale et luttent pour le maintien des 182 emplois. Julie Lemaire voudrait rayer de la carte la dernière usine qui reste en France alors que le marché des thés et infusions aromatisées représente le plus gros marché de l'Europe de l'Ouest. C'est en France que la valorisation de nos produits est la plus importante et c'est en France que sont réalisés les profits. En fermant l'usine, la multinationale se verrait bien fabriquer demain en Pologne et en Belgique pour vendre au prix fort en France pour faire encore plus de profits. Notre lutte est d'autant plus juste et légitime que le juge des référés du TGI de Marseille le 4 février 2011 a condamné Pralib et Unilever pour non-respect du code du travail, irrégularité manifeste et a ordonné l'annulation de la première procédure et le plan de sauvegarde de l'emploi. Ils ont depuis repris une nouvelle procédure le 10 mars, tout autant irrespectueuse du code du travail et de l'ordonnance du juge. C'est pourquoi nous avons une nouvelle fois assigné Fralib devant le TGI de Marseille le 15 juin. Leur projet est déloyal, injustifié et scandaleux. Pour une entreprise qui fait en 2010 plus 4,1% de croissance des ventes, plus 20 points de marge d'exploitation, une croissance en volume la plus élevée depuis 30 ans, un chiffre d'affaires de plus 11,1% à 44,3 milliards d'euros, un bénéfice net de 4,6 milliards d'euros. Unilever, un groupe qui représente le grand capital, qui ravage l'économie des pays en exploitant leurs richesses. Ils sèment en France le chômage et la précarité. Les effectifs sont passés en l'espace de 10 ans de 12 500 à 3 000 salariés. Ils se comportent et continuent à se comporter de façon déloyale et malhonnête, non seulement envers les salariés et leurs représentants, mais envers également la justice. Unilever arnaque les consommateurs pour s'enrichir un peu plus, pendant qu'il tue l'emploi et exploite ses salariés. Unilever arnaque aussi les consommateurs. Elle a progressivement baissé de 20% la matière première dans les sachets de thé et d'infusion, passant progressivement d'un sachet de 2 grammes à un sachet de 1,6 grammes. Le consommateur, lui, achète toujours de plus en plus cher les produits quand il va faire ses courses. Unilever arnaque également les contribuables et l'État français. Depuis 2007, le groupe lèse l'État et les contribuables français par un montage financier. La structure en Suisse, USCC, joue le rôle de paradis fiscal, reçoit tous les profits alors que c'est en France que sont créées les plus-values. Chaque année, ce n'est pas moins de 200 millions d'euros qui échappent à la fiscalité, c'est plus de 67 millions d'euros d'impôts qui échappent aux fiscs français. Unilever tue l'emploi, assassine et exploite les salariés et leurs familles. Cette multinationale, bourrée de fric, vient de racheter le groupe Alberto Culbert et une partie du groupe Sarali pour 4 milliards d'euros. Dans le même temps, elle tue l'emploi et se gave sur le dos des salariés pour satisfaire les actionnaires et la bourse d'Amsterdam. Toute cette casse sociale mène vers le chômage, la précarité et la misère. Conséquence de la casse de l'industrie, la baisse des salaires, la remise en cause des acquis sociaux, l'allongement de l'âge de la retraite, du départ en retraite, dans le même temps où baissent les pensions. La remise en cause de la protection sociale, où de plus en plus de personnes renoncent à se soigner par manque de moyens financiers. Le mutualisme solidaire est mis à mal, partout, et ici à Marseille, dans cette ville où les pauvres sont si nombreux. Ces pratiques scandaleuses sont mises en œuvre avec l'aide du gouvernement qui accompagne le patronat dans ses exigences de régression sociale. Cette politique ne sert que le capital contre le monde du travail. Ils n'en ont jamais assez. Tous les jours, de nouvelles mesures sont prises pour tenter de réduire les acquis sociaux des salariés, réduire ce qui appelle le coût du travail. pour augmenter la compétitivité des entreprises, ce qui signifie en général continuer d'enrichir les plus riches. Les plus riches, les capitalistes, eux, continuent à s'enrichir. Il n'y a qu'à voir les salaires exorbitants que s'octroient les patrons du CAC 40 et les autres. Paul Polman, PDG du groupe Unilever, à lui seul, s'octroie un salaire annuel représentant la moitié de la masse salariale annuelle totale des 182 salariés de Fralib. Pour eux, la crise n'existe pas. Bien au contraire, ils la créent pour mieux spéculer, supprimer les acquis sociaux et faire payer le monde du travail. Le pouvoir d'achat des salariés, des retraités, des privés d'emploi ne cesse de diminuer. Pourtant, le coût salarial ne représente plus rien. À Fralib, nos salaires, y compris ceux de nos deux mercenaires venus avec la mission de fermer l'usine, ne représentent dans une boîte de thé que 16 centimes d'euros. Notre grille des salaires a subi, elle, en 20 ans, une perte de 40% par rapport au SMIC. Un salarié embauché aujourd'hui gagne 3% au-dessus du SMIC, alors qu'il y a 20 ans, il gagnait 46% de plus que le SMIC. Sur la même période, les gains de productivité des salariés de Fralib ont vu une évolution de plus de 50%. La France est le pays où la productivité des salariés est la plus élevée au monde. La responsabilité d'Unilever dans ce projet de fermeture est pleine et entière. Malgré ce qu'il voudrait faire croire, Fralib est une entreprise rentable, profitable, compétitive. Les salariés sont qualifiés et compétents, avec un savoir-faire reconnu, et ce depuis 118 ans. Ce projet de fermeture fragiliserait un peu plus le tissu industriel du département et de la région. Il contribuerait à augmenter encore plus la misère déjà trop élevée dans les Bouches-du-Rhône. À Marseille, la moitié des revenus sont issus des revenus sociaux dus à la casse de l'industrie et au manque d'emploi. Pour les arrêter, il faut des actes et des engagements politiques. L'Europe qu'ils imposent au peuple, celle que les Français ont rejetée démocratiquement par vote, devient insupportable. Un changement de société s'impose. D'autres choix sont urgents. La question de la répartition des richesses créées et sa réappropriation par le plus grand nombre, par le peuple, est plus que jamais d'actualité. Nous sommes convaincus de la rentabilité de notre usine. Pour une grande majorité, nous avons décidé de prendre notre destin en main. Nous refusons le chômage, la précarité, la fatalité de la misère. Nous n'acceptons pas l'injustice, nous sommes convaincus que d'autres choix sont possibles. C'est tout le sens de notre projet, notre solution alternative face à l'annonce de la fermeture de l'usine. Notre projet est crédible et porteur d'espoir. Nous allons ensemble gagner cette lutte pour la sauvegarde du site industriel et des 182 emplois. La majorité de gauche des collectivités territoriales ont affirmé leur solidarité et leur soutien à nos côtés pour combattre le chômage, la précarité, les inégalités et la misère, qui est le quotidien de millions de personnes de plus en plus en difficulté, et pour contribuer à une société juste et solidaire. En votant le 25 mars pour le maintien des 182 emplois à Gémenos, soit avec Unilever, soit en permettant la reprise de l'activité en prenant en compte les attentes des salariés et des collectivités en matière de pérennisation du site de Gémenos. La région a franchi l'étape du soutien et de la solidarité par un engagement politique fort à nos côtés. C'est ce que les travailleurs doivent pouvoir attendre de la gauche. Maintenant, il faut des actes concrets, des mesures concrètes, précises, permettant que s'ouvrent des solutions. Mais soyons clairs, l'action vigoureuse des travailleurs et de notre syndicat ne se contentera pas d'un vague appel à voter à gauche. Si les élections sont un acquis démocratique arraché par la lutte, ces votes ne suffisent pas. Nous ne nous contenterons pas d'une visite, d'un passage chez nous. Nous serons vigilants et exigeants. Ce sont les travailleurs qui luttent. Unilever doit payer. Il doit payer non pas pour monnayer nos emplois, mais pour relancer l'activité du site, pour que l'on puisse continuer à vivre et travailler à Gémenos. Nous exigeons d'Unilever qu'il cède au collectif des salariés pour l'euro symbolique, les bâtiments, et qu'il crée les conditions pour la poursuite de l'activité à Gémenos. Qu'il cède l'outil industriel, qu'il fasse les investissements nécessaires à la remise à niveau de l'outil de travail. qu'ils assurent la commercialisation et la fourniture des matières premières pendant un nombre d'années suffisant à la constitution de notre propre circuit de commercialisation et d'achat des matières premières, qui nous permettra de constituer une entreprise souveraine. Et qu'ils cèdent la marque éléphant qui ne lui appartient pas. Elle appartient à des milliers de travailleurs qui ont construit et valorisé cette marque. Elle appartient à notre région et pas à une multinationale à base anglo-hollandaise. Elle est notre patrimoine collectif. Il ne s'agit là en fait que d'une toute petite partie de la fortune emmagasinée par les actionnaires depuis des décennies sur le dos des travailleurs. Nous ne voulons pas de promesses faites sur un tréteau. Nous ne sommes pas à la foire et nous ne sommes pas à vendre. Nous voulons des engagements forts et précis, des actes concrets. Les paroles ne remplissent pas nos assiettes et ne donnent pas de travail. Ce sont nos luttes qui feront avancer nos exigences. Nos exigences, ce sont des actes forts par un véritable changement de société. L'interdiction de licenciement et un vrai droit de veto pour les salariés et leurs syndicats. Un programme clair pour combattre l'injustice sociale et toutes les formes d'inégalité. Une société de paix, juste et solidaire, pour une France solidaire et respectueuse des peuples. Pour une France qui n'envoie pas, au nom de la domination impérialiste et du bon vouloir du prince, ses chars, ses soldats, ses avions bombardés, les populations, mais pour une France qui agit partout pour la paix et le désarmement. Une réappropriation et une autre répartition des richesses créées. L'éléphant est le patrimoine des salariés qui hier y ont travaillé, qui y travaillent aujourd'hui et qui travailleront demain. Il est le patrimoine du peuple, de notre département, de notre région et de notre pays.
La parole à Bernard Calabigle pour la phase. On a préparé donc pour les journalistes. Aujourd'hui, on a fait un tract qui situe la situation aujourd'hui, notamment au niveau juridique dans laquelle on se trouve, avec notamment en dernière partie les artifices qu'a utilisé la direction, notamment qui n'a pas hésité à carrément mentir devant le juge, notamment en transformant les propos de l'assistante sociale. Donc tout ça, on le met dans un 4 pages qu'on va diffuser aujourd'hui. Aussi l'intervention que vient de faire Gérard pour le syndicat, ça se trouvera dedans. Donc pour les journalistes, c'est Johnny qui est là. Donc avant de partir, vous le prenez, il a tout préparé, vous partez avec. Ce soir, on le met en ligne. Voilà. Donc Bernard Calabuc pour la phase.
Merci. La FASE, c'est la Fédération pour une alternative sociale et écologique, voilà, qui regroupe plusieurs sensibilités, dont celle de l'association communiste unitaire, dont je fais partie. Je veux vous dire deux choses en deux minutes qui me sont imparties, très court, pour ne pas rajouter du discours au discours. C'est que Fralib, c'est un combat, et Fralib, c'est aussi un grand moment de rassemblement et de solidarité, un grand élan de solidarité. Notre rassemblement ce soir l'illustre, de cet après-midi l'illustre. Ici se côtoient des syndicalistes, des salariés, des amis du parti de la gauche, du parti communiste, de la gauche unitaire, des élus comme le maire Daniel Fontaine, le maire d'Aubagne, Magali Gion-Valangeli, la présidente de l'agglomération. Et c'est ça qui donne de l'optimisme, qui fait que ce combat-là, il ne peut pas être perdu, ce combat-là, il faut le gagner. Et je vais vous dire deux petites choses. C'est que la première, c'est que le combat de Fralib, ce n'est pas un combat qui concerne simplement, seulement, les salariés de Fralib. Ce combat, il concerne toute la société. Il concerne toute la société parce que nous venons de visiter, comme ça a été rappelé, une usine, une unité de production extrêmement performante. Et quand on discute avec les salariés, on rencontre des salariés qui aiment leur métier, qui ont des compétences, qui ont du savoir-faire. Et on est dans un scénario qui dure depuis des décennies, qui est toujours le même. On ferme, on licencie, on jette les salariés, on les méprise, on regroupe, on restructure. Et tout ça pour une seule raison. C'est pour que des actionnaires fassent de l'argent et toujours plus d'argent. Eh bien, il faut en finir avec ça. Parce que c'est cette loi du profit à tout prix, dans le plus court délai possible, qui détruit tout, qui détruit les hommes, qui détruit la nature. Il faut arrêter ça, il faut inverser cette logique. Je pense que ce n'est pas ringard, comme le font les salariés de Fralib, lorsque des PDG, lorsqu'une société renonce à sa responsabilité sociale, qui est de faire de l'emploi, qui est de former, qui est de rémunérer à un bon niveau les compétences des salariés, eh bien, il n'est pas du tout ringard de réintroduire dans le langage politique la question des nationalisations, la question de coopératives. Et quand je dis nationalisation, je ne dis pas étatisation, je ne confonds pas État et nation. Dans la nation, il y a le peuple. Et quand je parle de nationalisation, je parle d'appropriation sociale qui va de pair avec des droits pour les travailleurs. Alors voilà, j'ai envie de dire et de terminer en disant que Fralib, eh bien Fralib, c'est un combat d'avenir. C'est le combat pour l'avenir de notre société. Et aujourd'hui, oui, nous sommes tous des Fralib.
Je vais donner la parole à Luc Léandri pour le parti de gauche.
Bien, écoutez, chers camarades, chers amis, je suis évidemment très fier, nous sommes très fiers ici de pouvoir accueillir le candidat du Front de gauche, Jean-Luc, et puis surtout chez les Fralib, parce que je crois que plus que n'importe qui aujourd'hui, vous incarnez, vous représentez ce que veut porter le Front de gauche aujourd'hui dans cette campagne auprès de nos concitoyens. Vous incarnez celles et ceux qui ne baissent pas les yeux, qui ne baissent pas la tête, qui continuent de se battre et qui veulent démontrer qu'on peut faire autrement face à la logique, face au rouleau compresseur du système. On peut faire autrement et vous incarnez. Mes camarades l'ont déjà dit, dans les projets dans lesquels vous êtes engagés aujourd'hui, on peut faire autrement. La coopérative ouvrière, dire aujourd'hui qu'on refuse les délocalisations, qu'on peut faire autrement et maintenir l'activité sur notre territoire. Voilà aujourd'hui ce que vous incarnez. Et c'est très important aujourd'hui que nous puissions faire la lumière sur le combat que vous menez plus largement, qui a déjà été fait, mais plus largement encore aujourd'hui. Et puis, juste aujourd'hui pour vous dire aussi que, en tant que conseiller régional du groupe Front Gauche, j'excuse mon président, notre président Gérard Piel, qui était avec nous toute l'après-midi, mais qui a dû partir pour un exécutif. Mais vous dire aussi qu'on a été là dès le départ à vos côtés, on continuera de l'être, on est très fiers d'avoir porté au sein de l'Assemblée régionale une motion de soutien au Fralib et surtout d'avoir porté le soutien financier qu'on apporte au CE pour mener à bien ce projet de coopérative ouvrière. Sachez-vous, vous pouvez compter sur nous, on sera encore avec vous dans les semaines et les mois à venir. Merci.
Donc Jacques Le Richon pour la gauche unitaire.
Oui, bonjour mes amis. Je ne sais pas si vous êtes comme nous, si vous ressentez cette émotion quand on rentre dans cette entreprise. Où aujourd'hui, nous avons des travailleurs, des salariés, des femmes et des hommes debout, qui n'ont pas les chines courbées, mais qui veulent se battre. Les patrons aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent, préfèrent ceux qui subissent, en silence. Aujourd'hui, ici, à Fralib, c'est la résistance ouvrière qui se met en place. De ce point de vue-là, je me rappelle, comme jeune militant syndical, j'étais allé voir nos camarades de l'IP à Besançon. Et je me souviens de cette banderole des salariés qui disaient « Les patrons ne peuvent pas se passer des ouvriers, mais nous pouvons nous passer des patrons ». fierté d'être avec vous. Ici, à Marseille, on n'est pas de ceux qui baissons les yeux. On n'est pas de cette trempe-là. Bonheur aussi d'avoir notre candidat, Jean-Luc Mélenchon, qui a fait le choix pour sa première intervention de candidat du Front de Gauche de venir ici, à Marseille, capitale des luttes, être aux côtés des travailleurs qui résistent. Je voudrais te dire, Jean-Luc, au nom des militants de la gauche unitaire, au nom de Christian Piquet, de la direction, le bonheur que nous avons aujourd'hui de rentrer en campagne, parce que, comme le disait Bernard, comme le disait Luc, c'est un mouvement unitaire aujourd'hui qui est en train de se mettre en place. Le Front de Gauche, notre Front de Gauche, doit être le front de tous les travailleurs pour faire obstacle au licenciement, à la baisse des salaires, à la remise en cause de tous nos acquis sociaux et de nos libertés. Je suis militant syndicaliste et je veux m'adresser ici avec force aux militants syndicaux, aux salariés. Le Front de Gauche vous appartient. Il est votre front. Ensemble, avec Jean-Luc Mélenchon, avec le Front de Gauche, nous allons construire une alternative réelle. Nous allons montrer qu'une autre société est possible, juste, solidaire, féministe, écologique, démocratique, au service de l'intérêt des travailleurs. Ensemble, tous ensemble, avec Jean-Luc Mélenchon, avec le Front de Gauche, nous allons gagner.
La parole à Pierre Dharréville pour le Parti communiste français.
Merci. Mais moi, je voudrais remercier tout d'abord les salariés de Fralib pour évidemment cet accueil qui est le leur, mais aussi saluer la lutte qu'ils mènent depuis de longs mois maintenant, une lutte courageuse et, j'allais dire, une lutte valeureuse au sens où elle est vraiment porteuse de valeurs fondamentales. Et vous le savez, ça fait quelque temps que nous côtoyons la lutte que vous avez menée pour une autre répartition des richesses, pour les salaires, et la lutte aujourd'hui pour que l'activité se poursuive ici, sur ce site de Gémenos et dans notre département. Et toutes les raisons ont été très bien évoquées par Gérard, et nous soutenons pleinement, évidemment, ce combat, vous le savez. Je crois que cette bataille, ce n'est pas simplement une bataille syndicale, c'est une bataille politique aussi. C'est une bataille politique parce qu'elle pose la question de l'organisation de la société, de la répartition de ses richesses et de savoir qui décide. Est-ce que c'est à quelques actionnaires, est-ce que c'est à un patron grassement payé de décider de ce qui doit être notre sort, de ce qui doit être vos emplois, de ce que doivent être vos emplois, de ce que doivent être nos vies, nos territoires? Eh bien nous pensons que non, nous disons que non. Il y en a assez de vivre dans cette société-là, telle qu'elle est construite, et nous devons changer les choses, il y a besoin de changer les choses. Donc je crois que cette bataille, elle est essentielle, et elle se mène ici, elle se mène ailleurs dans notre département. Notre département est victime d'attaques extrêmement violentes de la part des marchés financiers, de la part de tous ces gens-là qui veulent décider à nos places de nos vies. À Berne, avec Lyon Del Basel, à Gardanne, avec E.ON, avec Rio Tinto, ou encore en Net Cacao à Marseille, on pourrait citer d'autres exemples. Ces attaques, elles sont extrêmement violentes. Mais nous sommes nombreux à vouloir que les choses changent. Cet automne, nous étions nombreux, les rues de Marseille débordées pour lutter pour la retraite. Et bien, ce qui s'est passé cet automne, ça doit se reproduire dans les urnes en 2012 pour la présidentielle et pour les législatives. Parce que c'est un moment de la lutte, ces élections que nous allons vivre. Elles ne peuvent pas changer à elles seules les choses toutes seules, mais nous pensons qu'elles sont un moment important, et notre conception de la politique, et je vais en terminer par là, elle est que c'est aux hommes et aux femmes eux-mêmes de s'en saisir. Nous ne nous présentons pas devant vous en disant « Voilà, donnez-nous les clés, on va tout changer, tout seul ». Ça ne marche pas comme ça, y compris avec les gens qu'on a en face de nous, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut qu'il y ait un vrai rapport de force et que les gens eux-mêmes s'en mêlent. C'est ça que nous voulons, c'est ça que nous voulons faire avec vous. Ici, à Fralib, vous voulez gagner et nous voulons gagner avec vous.
Donc, je vais passer la parole à Jean-Luc Mélenchon, candidat du Front de Gauche pour les présidentielles 2012.
mes chers amis, mes camarades, d'abord un mot pour vous remercier de m'avoir accueilli aujourd'hui parmi vous. Avec cette chaleur et cette fraternité particulière qu'on rencontre parmi la classe ouvrière. Il y a quelque temps de cela, alors que je me trouvais à Brignoles, Élodie et Valérie sont venus à ma rencontre avec sous le bras le dossier, et chemin faisant, tandis que j'allais d'un endroit à l'autre, qu'on se déplaçait, ils m'ont expliqué le contenu du dossier, et je m'étais engagé à venir, après d'autres ici, car je ne suis pas le premier à être venu, apporter ma contribution à la lutte que vous menez. Parce que des fois, même s'il ne vient personne, s'il n'y a pas de journaliste, eh bien, il y a ce mouvement du cœur qui fait qu'on est heureux de se voir et de penser qu'on n'est pas oublié, qu'il y en a d'autres qui sont là, qui suivent la lutte, qui s'y intéressent et qui s'y impliquent de cœur et d'esprit. Au minimum, je l'aurais fait. Et puis, le calendrier fait que c'est ce 18 juin qu'un nouvel acte de résistance est proclamé par le vote des militants communistes qui rendent possible l'ouverture d'une extraordinaire nouvelle page de l'histoire de la gauche et dès lors de la patrie républicaine des Français qui dans tous les grands moments est identifiée à la gauche. Et donc, j'ai pensé que ce serait une belle idée que de commencer ce chemin nouveau qu'on va emprunter ensemble, d'abord dans une usine. Et quelle usine ? Je vais en dire un mot. Si bien que les gens de presse, les journalistes, pourraient être intéressés à venir observer ce déplacement et donc rencontreraient la lutte ouvrière. Le Front de gauche porte un projet audacieux et ambitieux. Pas parce que nous serions plus audacieux et plus ambitieux que d'autres, certes nous le sommes, mais parce que des circonstances exceptionnelles roulent sur le monde et sur l'Europe qui exigent des solutions audacieuses et non la répétition plan-plan des routines, des habitudes et des chemins tout tracés qui vont d'une ornière à l'autre. Quand la crise déferle sur l'Europe, menace jusqu'à ses fondements, tel qu'à cette heure, personne ne peut dire si dans un mois ou deux, il y aura encore un euro. Et nul ne peut souhaiter qu'il n'y en ait plus après un fracas incontrôlé. Quand la crise est telle que l'on voit les puissants, les importants, les intelligents, qui savent tout le temps mieux que les autres, être incapables de faire face à une catastrophe qu'ils ont eux-mêmes provoqués par leur imprévoyance, comme on l'a vu au Japon, à Fukushima. Incapables de faire face à une crise financière dont ils sont intégralement les responsables. Tel qu'un diplômé de lettres, comme moi, est capable d'y voir plus clair que toute cette armée de prétentieux qui savaient savoir faire mieux que les autres, pour l'Europe et pour la monnaie unique et pour le monde. Et qui, à cette heure, ne savent que faire, sinon proposer à la Grèce et aux Grecs de pâtir et souffrir encore et encore, sans aucune perspective d'une amélioration quelconque demain. Voilà leur bilan. Leur système ne marche pas. Leurs dirigeants sont des incapables. C'est eux qui provoquent ces désastres. C'est eux qui sont incapables de nous proposer des alternatives tranquilles du type de celle que nous souhaitons. Car nous sommes des gens tranquilles et nous ne demandons rien d'autre que les choses simples auxquelles notre labeur, notre intelligence, notre dévouement aux autres nous donnent droit. Être soigné quand on est malade, que nos enfants soient correctement éduqués à l'école, quitter l'emploi quand l'heure est venue, d'aller à la retraite, se dévouer aux autres d'une autre manière, aux siens et à la collectivité. Qu'est-ce qui dans tout ça est si extravagant qu'on ne puisse l'obtenir alors que le pays est si riche qu'il
qu'il est plus riche qu'il ne l'a jamais été de toute son histoire. Vous qui avez un patron dont la paye représente pour moitié de ce qu'elle est, la totalité de vos salaires, qu'est-ce que cette humanité qui a des besoins si extravagants qu'il faut pour qu'il soit satisfait le travail d'une usine entière? Et encore, ça ne suffit pas. Ces mots, je les porte pour vous. Vous pourriez les dire aussi bien que moi et peut-être même mieux, parce qu'ils viendraient de vos souffrances et de votre intérêt pour votre travail. Telle est ma mission dans ce moment. Je porte votre parole. Je rends visibles les invisibles, la classe ouvrière, les ouvriers, les salariés, les employés. Il n'y a pas de classe sociale plus nombreuse en France, plus industrieuse, plus capable de préparer la suite. Et c'est elle qu'on ne voit jamais, dont on ne parle jamais, sinon pour lui attribuer des sentiments qui ne sont pas les siens. Puisqu'aujourd'hui, paraît-il, elle serait vouée à l'extrémisme d'extrême droite. Voilà le moment où il redécouvre les ouvriers, c'est pour les insulter de nouveau. Alors, je fais au fond, à échelle nationale et dans le rôle qui est le mien, ce que font Olivier, Gérard et combien d'autres ici, marchant devant, des fois en se demandant pourquoi. Les autres, vous avez été là, vous avez poussé d'un mouvement d'épaule, d'un mouvement du coude, et les voilà devant, c'est à eux de faire le travail. Mais on ne le fait jamais si bien que porté par les autres. Et à cette heure, c'est de vos exemples que je me sens porté. J'ai croisé quelqu'un qui m'a dit qu'elle avait eu 6 années de contrat d'intérimaire avant enfin d'avoir un contrat à durée indéterminée. Et qu'elle n'a pu bénéficier du bonheur de se dire « Je sais enfin ce que je vais faire l'année prochaine. » Commencer à faire des projets, déposer des dossiers pour construire sa vie, n'a pu en profiter que 4 semaines avant d'apprendre que l'entreprise devrait être fermée. Eh bien, de cet exemple, il faut tirer une leçon générale. À bas le précariat, à bas la précarité. Nous sommes capables en 48 heures, peut-être à peine plus, mais pour un discours, il faut dire 48 heures. Mais à peine plus, de titulariser les 850 000 précaires de la fonction publique. Il faut une demi-heure pour signer le décret qui interdit que les entreprises puissent, pour les grandes, utiliser plus de 10% de leur main-d'œuvre en contrat à durée déterminée et pour les plus petites, plus de 5%. Alors les travailleurs et les salariés, moins angoissés pour eux de leur lendemain et pour leur famille, trouveraient cet allant et cette disponibilité qui renforce le peuple et lui donne les moyens du combat. Car il est dur de se préoccuper des autres quand on ne sait pas déjà de quoi sera fait son propre lendemain. Et vous le savez bien. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Je suis rentré à l'usine à 16 ans et m'y voici encore. » Eh bien, est-ce que toutes ces années étaient seulement des années où cette noble et digne personne répétait les mêmes gestes? Ou bien est-ce qu'au contraire, pendant toutes ces années, le savoir-faire ne s'est pas amélioré? Est-ce que cette personne n'a pas concouru par son intelligence et proposition à l'heure où l'on a parlé de la forme de la machine, de la façon de mieux la protéger? Est-ce qu'elle n'a pas aussi apporté ça en plus de son travail heure après heure, cette intelligence collective que nous avons? Est-ce qu'elle ne mérite pas d'être récompensée? Est-ce que ce soit par la validation des acquis de l'expérience ou par quelque autre moyen négocié dans l'entreprise, la paye ne doit pas suivre à bon rythme le progrès lié à la fidélité à l'entreprise et à la qualité du travail? Il faut une augmentation immédiate et substantielle des salaires des travailleurs. parce que c'est eux qui le méritent et qui sont en capacité à partir de là. Je vous le dis d'un point de vue d'économiste, non pas d'aller accumuler pour placer dans ces placements suspects qui vont et viennent au gré de la bulle financière dans le monde, mais qui vont dans la production, qui vont dans la consommation, dans les petits bonheurs de la vie de tous les jours. Car les gens n'en demandent pas tant qu'on en donne à Madame Bettencourt, qui ne sait qu'en faire et ne sait d'ailleurs même plus où elle en est, ni à ses patrons d'Unilever, dont je ne connais pas le nom, mais dont je vais quand même vous dire un mot. J'ai rencontré quelqu'un qui est un bachelier professionnel et qui a un bac pro de maintenance des systèmes industriels. Le voici devant la machine complexe, capable, bien mieux qu'un autre, de prévenir à temps ce qui dysfonctionnerait. Travail précieux qui permet de savoir comment demain il faut améliorer la mécanique pour soulager le travail humain. Car la machine est là aussi pour soulager le travail humain. Ne le perdons pas de vue, non pas pour accabler et pour exiger d'une productivité sans cesse croissante. Eh bien, ce savoir-là, c'est celui qui doit donner le droit aux travailleurs de participer directement à l'analyse du process de production et aux améliorations qu'il apporte. Les travailleurs savent le faire et il y a dans cette usine des machines qui ont été inventées par les travailleurs qui en ont fait le cahier des charges. C'est votre fierté et vous avez raison de dire à partir de là, à qui appartient la marque ? Elle appartient aux travailleurs qui l'ont amenée à ce niveau de performance et d'attraction. Je le dis, oui, parce que la question de la propriété est centrale et j'y viens. Mes chers compatriotes, c'est à mes concitoyens que je m'adresse, à ceux, pas seulement qui ont des bulletins de vote, mais à qui la République confie le soin pour chacun d'entre eux de dire non pas ce qui est bon pour lui-même, mais ce qui est bon pour tous et qui s'appelle l'intérêt général. L'intérêt général de la République française est que cesse la possibilité que par des manœuvres et des manigances, on obscurcisse le circuit de la décision et de la collecte de l'argent tel qu'on puisse en Suisse, ce pays qui à lui tout seul est une espèce de concentré de tout ce qu'on peut imaginer, de dissimulation et d'encouragement aux fraudes inciviques les plus complexes, mais qui au bout du compte reviennent toujours à la même chose, comment piller le travail des autres et en bénéficier sans entrave. C'est une honte que parce qu'on a créé une entreprise qui est localisée, qui a ses comptes en Suisse, elle réalise le rêve du patronat. Une entreprise où il n'y a pas d'ouvriers, il n'y a pas de machines, il n'y a pas d'usine, il y a juste un fichier client, un carnet de chèques et des calculettes. Merci Gérard. Et ces gens là-bas décident que vous êtes des centrales de coûts, c'est-à-dire que vous vous coûtez. C'est comme ça que vous êtes présentés alors que c'est ici que s'accumule la richesse. Il faut que cesse en Europe. Et je sais que la Suisse n'est pas membre de l'Union européenne. Il faudra donc lui faire entendre raison, si ce n'est de gré, alors de force. De force par les accords internationaux. Ça suffit, les paradis fiscaux. La truande qui permet de voler les peuples de leurs efforts. Et si vous cherchez l'argent des Grecs, il est vraisemblable qu'il doit être quelque part de pas très éloigné du coffre-fort où se trouve le vôtre, celui que vous produisez. Ça suffit. Le dumping social, le dumping fiscal, et ce que je dis là n'a rien d'exagéré, rien d'excité. c'est au contraire demander tranquillement que là où est produit la richesse, eh bien, elle puisse circuler librement. C'est à cela que je vous appelle, comme citoyen, par vos bulletins de vote, à marquer avec force ce qu'est un vote utile. Un vote utile, c'est celui qui permet de briser ces chaînes-là, les chaînes du mensonge, de la triche qui opprime le continent tout entier. Et puis après, bien sûr, vient la question de la propriété. Et je veux qu'on m'entende, moi qui ai pris le risque avant d'autres, bien moins grand que ceux qu'ils ont pris eux, en disant qu'ils s'en aillent tous, car je pensais précisément au patron d'Unilever, ce qui ne s'est pas assez su. Et comme j'étais content de voir les Tunisiens dire « dégage » et les Égyptiens en faire autant, et puis ensuite les citoyens se regrouper en Espagne, en Grèce et partout, pour aller vers des assemblées citoyennes que je vous appelle vous aussi à constituer. Eh bien, il faut maintenant faire le bilan. À cette heure, les dirigeants d'Unilever ne se comportent pas avec la dignité et la responsabilité qui doit être celle de personnalités d'aussi haut rang. Diriger une entreprise, ce n'est pas seulement prendre, c'est aussi donner. Et puisqu'ils ne savent pas que faire, et que paraît-il, ils ne savent faire autrement que de produire du thé éléphant né ici, ils ne sauraient-ils, paraît-il, le faire qu'ailleurs, en Pologne, ou je ne sais où, où l'on a sûrement moins vu d'éléphants qu'ici. Eh bien, il faut dire, si vous ne savez pas le faire, allez-vous-en, parce que nous savons le faire. Restez chez vous. Faites autre chose. Nous savons faire bien, de bonne qualité, avec du soin, de manière responsable et moins gaspilleuse que vous. Lorsque vous nous avez donné, par exemple, et heureusement que vous en êtes revenu, la consigne absurde de préférer mettre à la poubelle les cartons qui n'étaient pas bien formatés, les sachets qui ne l'étaient pas, plutôt que de les confier aux quatre où l'on faisait du bon travail. Avant qu'on ait installé ici une machine, il y a eu cette consigne absurde de tout foutre à la poubelle. Et d'ailleurs, si on les écoutait, c'est la terre entière qui serait une poubelle. Et c'est ce qu'ils ont commencé à faire. Bref, puisque vous faites cette démonstration, voilà mon jour de gloire. Je suis pour ma première sortie de candidat du front de gauche. Parmi les miens, ceux que j'ai mission de représenter au nom des partis qui constituent le front de gauche et des personnes qui n'ont pas d'appartenance de parti. Les travailleurs, la classe ouvrière, celle qui ne baisse pas les yeux et qui, lorsque les patrons disent « nous allons nous en aller », a le mot qu'il faut pour répondre et dit « au revoir ». Vous avez raison de faire la démonstration jusqu'au bout en disant « nous sommes capables nous-mêmes d'organiser la production avec une coopérative ouvrière de production, quelle qu'en soit la forme, qu'il s'agisse d'une société qui donnerait sa part aux collectivités locales, une coopérative au sens traditionnel, ou bien une société anonyme à participation ouvrière. Les formes sont nombreuses qui permettent de montrer qu'il existe une alternative à la propriété capitaliste, surtout lorsque celle-ci se présente, comme elle le fait ici, comme purement prédatrice. Nous sommes ceux qui savent produire, bien produire avec intelligence et avec assez de discernement pour penser aux autres. Gérard, Olivier, Élodie, Valérie m'ont expliqué qu'ici, quand on a travaillé 2 heures, on a produit la richesse de 10. C'est donc qu'il s'en trouve 8 qui sont accaparés par quelques-uns. Eh bien, c'est 8 heures de travail gratuit. Et vous voyez que tout le capitalisme repose sur le travail gratuit, celui des autres. Ce travail gratuit peut être récupéré. Oh, nous ne sommes pas si gourmands qu'il y paraît d'abord. Récupéré par qui en paye. Récupéré par qui en temps libre. Récupéré par qui en travail partagé. Et tout ceci, mes amis, produit quelque chose qui n'est pas quantifiable, quelque chose qu'on ne peut pas mettre en chiffres, mais qui irradie la société de l'intérieur. Et ça s'appelle le petit goût du bonheur de vivre. Le bonheur de vivre. Comme disait Ferrat, qui vous laisse la lèvre sèche. Allez, bon vent, la France que vous êtes. Belle et rebelle, nous sommes à vos côtés.